Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, votre émission pour commenter l'actualité chaque jour du lundi au vendredi sur la radio africaine. Aujourd'hui, dans le JDA, nous attendons vos réactions et commentaires sur le lancement de la ZLEC ou la ZLECAF. C'est la zone de libre-échange continentale africaine réunie en sommet. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont donc officiellement lancé le plus grand marché commun du monde. Désormais, il s'agit de négocier les modalités de cette zone qui doit accroître le commerce intra-africain. Alors, qu'en pensez-vous? Cette zone de libre-échange vous paraît-elle pertinente? Comment éviter qu'elle ne profite aux pays les plus riches? Et puis, comment aussi dépasser les effets d'annonce? Pour nous donner votre avis, participez à l'émission. Le numéro, c'est le 33 1 55 07 58 00 33 1 55 07 58 00. Avant cela, je vous propose d'écouter quelques messages que vous nous avez laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour Africa Radio, bonjour à tous les Africains et tous les auditeurs de l'Africa Radio. Moi, je crois qu'il n'y a pas de grande surprise dans la compétition. La seule surprise que moi je vois, c'est Madagascar et le Bénin qui sont arrivés pour une première fois en quart de finale. Mais à part ça, c'est les 6 équipes qui sont là actuellement, telles que le Sénégal, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, Tunisie et l'Afrique du Sud, ils ont été tous presque vainqueurs de la CAN déjà. Donc, chez moi, il n'y a pas de grande surprise en fait. Il y a justement la surprise que moi je trouve, c'est Madagascar et puis le Bénin. Du fait que le Maroc est parti, l'Égypte est partie et tout, c'est parce qu'ils n'ont pas mérité quelque part. Donc voilà, l'aventure continue et les équipes qui sont là actuellement, ils ont vraiment mérité leur poste, leur place. Alors nous, il nous faut maintenant 3 victoires maintenant pour envoyer la coupe maintenant devant la Lagune et briller. Je le souhaite de tout mon cœur. Donc je dis encore bravo à la Côte d'Ivoire et je dis encore que l'aventure continue. Et rien n'est fait. Il nous reste encore 3 matchs pour envoyer la coupe en Côte d'Ivoire. Tu vas le faire, Inch'Allah. Francis.
Bonjour Afrique numéro 1. Bonjour la radio africaine. Moi, je vais là parler un peu de la CAN. Je suis en train de suivre Stéphanie avec les auditeurs qui sont en train de discuter, de débattre. Moi, je demande à Stéphanie si vraiment si elle peut passer le message sur le match Congo-Madagascar. Madagascar prétendu comme une meilleure équipe. Je veux bien. C'est une révélation. C'est très bien. Mais je vous dis clairement que le match Madagascar-RDC, les Malgaches n'étaient pas à la hauteur de battre RDC. Bien que nous sommes un peu... bien que ça ne va pas, mais on avait tenu. Surtout en deuxième période, nous étions les meilleurs. La compétition de la CAN, c'est une grande compétition internationale. Qu'on applique, qu'on instaure la VAR, parce que l'arbitre qui a dirigé ce match, Madagascar-RDC, était corrompu. C'est clair. Tout le monde l'a dit. Le Congo méritait la victoire. La RDC méritait la victoire. S'il fallait même introduire un recours, ça serait mieux. Moi, je salue les Malgaches. Qu'ils continuent comme ça. Moi, je pense que, dans cette allure, moi, je pense que s'ils continuent à jouer mieux, ils peuvent gagner la Coupe d'Afrique. On le souhaite. Mais sinon, contre le Congo, franchement, on les avait pris. Ils étaient entre les taux, entre l'enclume et le marteau. On aurait gagné ce match.
Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous de cette Africa Radio. Je parle de la CAN. En fait, il y en a qui ont dit hier que cette CAN est décevante, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas le football du haut niveau, c'est de la pagaille, je ne sais pas quoi. Après, je me pose la question, comment est-ce que ceux-là qui critiquent le niveau de jeu de joueurs africains là, qui, à cette CAN, comment ils regardent en fait, avec quels yeux, avec quelle télévision, ou s'ils sont sur place, on ne sait pas. Parce que moi, c'est pas ça qui déçoit. Cette CAN, pour celui qui regarde bien le foot, je pense que c'est l'arbitrage qui déçoit. C'est l'arbitrage qui déçoit parce qu'il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Mais au niveau du jeu, en fait, il y a une chose que les gens doivent comprendre. Quand les stades sont pleins, quand ils s'en comblent, une autre animation. Et c'est là qu'on ressent vraiment l'intensité, on voit l'intensité. Parce que les joueurs sont poussés par les supporters. Et voilà, c'est ça. Mais il y a un vide dans tous les stades. Et du coup, c'est comme si c'était des matchs qui se jouaient, en fait, à la cité. C'est comme si c'était des matchs d'entraînement. Mais le jeu est là. Mais sauf que on n'a pas ce bruit-là qu'on veut entendre. Et c'est-à-dire qu'il donne la beauté, qu'il fait la beauté du football. Ça, il faut le reconnaître. Donc si c'est pour critiquer au niveau du jeu de ces joueurs-là, je suis désolé, le football est là, on a regardé des matchs, il y a des équipes qui nous impressionnent, par exemple comme le Madagascar, ils nous ont impressionnés, ça veut dire qu'il y a eu du beau football qu'ils ont présenté.
Oui, c'est vrai, j'ai lu le témoignage d'un joueur marocain qui disait que lors du match Maroc-Bénin, et que lui, il avait vu que son but était offert au fond des filets. Mais en fait, c'est le contraire. Moi, je dis qu'il arrête un peu, hein, parce que le Maroc était en Coupe du Monde, et dans leur poule, le Maroc en la Coupe du Monde, là, il n'y avait pas le Bénin. Et comment est-ce pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sortis de la poule? Est-ce que le Bénin était dans leur poule? Pourquoi ils ne sont pas sortis de la poule? Qu'ils arrêtent un peu, hein. Voilà. Et puis, bon, à ceux qui croient à ça aussi, les personnes qui croient, n'est-ce pas, à la sorcellerie, ou bien, n'est-ce pas, à quoi, mais aujourd'hui, c'est le jour J. Aujourd'hui, c'est le jour J. Entre le Bénin et le Sénégal. Bénin, terre sacrée, n'est-ce pas, du vaudou, depuis 8 ans, et le Sénégal, terre sacrée, n'est-ce pas, du marabout, depuis la ville de Touba. Donc, on va voir entre vaudou et marabout qui sera le plus fort. On verra. Merci. Bonne journée.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bravo, mesdames. Ce sont les dames qui, depuis l'accession de Trump au pouvoir aux États-Unis, sauve l'honneur de l'humanité. Alors que le président de la République française faisait la danse du ventre, accueillait Donald Trump à la Tour Eiffel, puis au 14 juillet à la tribune, avant d'aller se faire honnir par l'épouillage devant toutes les caméras du monde aux États-Unis, Mme Merkel traînait les pieds pour rencontrer Donald Trump. Aujourd'hui, alors que le Mexique s'est couché devant les injonctions de Trump, ce sont les dames qui refusent, après leur victoire, de se rendre à la Maison-Blanche. Et puis, merveille des merveilles, Mme Rackete a bravé Matteo Salvini en allant accoster à Lampedusa. Bravo, mesdames, vous faites honneur à l'humanité. Honte aux hommes. Honte aux hommes politiques, en particulier aux Français.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, que faut-il attendre de cette zone de libre-échange continentale africaine, la ZLEC, 27 pays l'ont ratifié. On compte notamment le Burkina Faso, le Tchad, le Congo, la Côte d'Ivoire, Djibouti, la Guinée, le Gabon, le Ghana, la Gambie, le Kenya, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Rwanda, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud, le Togo, l'Ouganda, ou encore le Zimbabwe, la République arabe sahraoui démocratique et le Maroc ont annoncé dimanche qu'ils déposeraient les instruments de ratification dans les prochains jours. Alors qu'attendez-vous de ces ZLEC? Est-ce une bonne chose pour l'intégration du continent? Est-ce que la ZLEC va accroître le commerce intra-africain comme il est dit? 33 1 55 07 58 00 pour participer. On commence avec excusez-moi, Céleste, bonjour. Allô?
Allô?
Bonjour Céleste, bienvenue dans le journal des auditeurs.
Bonjour Madame Adman, je voulais juste dire aux Africains que...
Est-ce que vous pouvez enlever votre kit main libre ou votre haut-parleur ou quelque chose comme ça, Céleste?
Ah ouais, ça vous fait des bruits.
Attends, les auditeurs vont se rendre compte de la différence.
Oui, allô?
Oui, voilà, c'est un peu mieux. Ouais. Vous voulez dire aux Africains quoi, Céleste?
Ouais, j'ai dit aux Africains, il ne faut pas le vendre, déjà mal engagé, mal parti. Si nous, Africains, nous avons le problème, nous avons le problème de faim, nous avons le problème de guerre, on doit d'abord les résoudre. Comment on peut faire le marché libre-échange si l'on a des trucs qui sont en guerre?
Hein? Finalement, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, il faudrait déjà des zones sécurisées.
Non. Il ne faut pas nous prendre comme des gamins. À un moment donné, il faut avoir la tête pour raisonner. Madame, Je ne le dis pas parce que, mais il faut voir la réalité de nos frères, nos sœurs qui vivent au pays. C'est la moindre des choses, madame.
Est-ce qu'on peut s'étonner aussi, hein, puisque la ratification a été faite par les parlements, il n'y a pas eu beaucoup de débats, hein, on n'a pas beaucoup associé la population sur...
Est-ce que chez nous, nous avons des commerciaux, nous n'avons jamais eu de président ou de chef de l'État.
Bon.
Hein? Ça existe depuis des années.
Merci Céleste. Alors la ligne dégradée est pas super, on vous entend mal, mais on a à peu près compris ce que vous vouliez dire, hein, Céleste, qui dit voilà, est-ce qu'il faudrait pas d'abord faire la paix dans certains pays. On peut penser à la Centrafrique encore, hein, la RDC où il y a aussi beaucoup de violence, voire aussi le Mali et le Sahel en général. Voilà, Céleste qui dit finalement là, les questions de paix et de sécurité sont peut-être plus importantes que les questions économique et commercial. Merci Céleste. On va Céleste évoquer nos frères qui vivent dans nos pays. on va retrouver Tierno côté diaspora. Tierno à Conakry, bonjour.
Oui, bonjour Céleste et bonjour à vos millions des auditeurs.
Bonjour Tierno, bienvenue dans le journal des auditeurs. Vous n'êtes pas très convaincu de l'aboutissement de ces accords, hein. Voilà, il y a encore l'UA s'est fixé, hein, jusqu'au 1er juillet 2020 pour que la zone de libre-échange soit effective. Mais vous dites c'est plutôt l'initiative est bonne, c'est ça?
Oui, tout à fait. Comme vous avez dit tout à l'heure, nous on vit sur le continent et encore on suit l'actualité du continent. Donc pour parler de l'initiative, à mon avis, est très, très salutaire, mais son application, là aussi, il y a autre chose. Parce que, comme vous le savez ici, en Afrique, chaque fois, et si les intérêts de certaines personnes sont vraiment menacés, donc il y aura automatiquement des renoncements. Donc, je vais parler là des anciennes puissances coloniales. Donc, quand on parle libre-échange continental, c'est qu'on parle là de l'économie. Je ne suis pas trop spécialiste dans ça. Moi, c'est sûr que l'économie africaine, vraiment, est une partie détenue par les anciennes puissances coloniales, dont la France. Ils sont dans les secteurs, dans plusieurs secteurs, que ce soit dans les mines, dans l'or, tout, cacao et autres. Donc, quand on parle là, ils sont là, ils se sont mêlés là, avec des binationaux franco-africaines. Donc, une fois qu'il n'y a pas leurs intérêts, ça suffit juste un coup de fil provenance de Paris. Vous verrez automatiquement certains chefs d'État du continent renoncer. Donc, c'est encore somme de chefs d'État qui n'honorent pas leurs engagements et leurs signatures. Comme vous le savez ici, ce sont des chefs d'État qui ont participé à des signatures. Chaque fois, on nous parle ici en Afrique, les accords de Nairobi, d'Arusha, de Ouaga, de Khartoum. Ce sont des signataires spécialistes, des signataires des accords et des spécialistes, des initiateurs de bonnes initiatives. Mais ils n'arrivent vraiment pas d'appliquer des choses sérieuses sur le continent. Vous avez vu comment est terminé le projet qu'on a initié il y a des années, les États-Unis d'Afrique. Donc, personne n'en parle. Personne n'ose de parler ça parce qu'il y a eu un lion qui a mis les pieds. Donc, personne n'ose parler. Kadhafi est parti, l'initiateur. Donc, ceux qui sont là aujourd'hui, ils sont là à inventer autre chose encore. Attendons de voir dans les années à venir, voir si ça sera vraiment une réalité. Parce que là, les Africains ont fait que des propositions. On dirait que c'est pas eux qui sont leur propre maître de leur destin. Là, il y a des questions qu'il faut se poser. On nous parle de 2020 et autres, l'Union monétaire ouest-africaine et autres. Il y a chaque année, on ne parle que des projets. On ne parle que des projets de première pierre. On ne parle que des projections 2020, 2030, 2040. Mais une fois que sur le terrain, comme vous êtes vraiment une qui connaît notre continent, il n'y a rien. Il n'y a pas.
Vous dites à Tierno, finalement, ce que vous êtes en train de dire, c'est que, voilà, on fait beaucoup d'annonces, hein, du côté de l'Union africaine. On se souvient d'ailleurs de cette fameuse agenda, hein, 2063, mais concrètement, on ne voit rien sur le terrain. Alors, Moussa Faki, Mahamat, hein, qui a quand même déclaré Ceci lors du lancement de cette LEC et du sommet, il a dit « Les pères fondateurs doivent en être fiers, un vieux rêve se réalise », a déclaré le président de la commission de l'Union africaine. Et il a ajouté ceci, Moussa Faki Mahamat, il a dit « La LECAF ne pourra être effective que si l'on n'ouvre pas les frontières, que si l'on ouvre les frontières aux Africains. Je voudrais mettre l'accent sur l'impérieuse nécessité de ratifier le protocole sur la libre circulation ». Condition nécessaire à la liberté du commerce. Alors, voilà, est-ce qu'il est facile de circuler d'un pays à l'autre? On peut évoquer peut-être déjà l'espace CEDEAO, où il y a un passeport CEDEAO. Venez témoigner, hein, nous dire si la libre circulation des personnes est effective avant celle des biens. William, bonjour.
Stéphanie, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous.
Vous dites que c'est une première en Afrique, je suis très content, mais il faut que ce soit des vrais échanges. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, on sait ce que c'est que le libre-échange aussi, c'est la liberté de circulation des biens, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi d'impact sur les économies les plus faibles? Est-ce que ce ne sont pas les gros pays qui vont tirer leur épingle du jeu?
Bah, si on voit la réalité dans ce monde, c'est la loi du plus fort qui domine, hein, et ça, il faut s'y attendre. Mais le problème, c'est d'être déjà content le fait de savoir que tous ces pays-là d'Afrique pouvaient se mettre d'accord sur quelque chose qui pouvait faire en fait leur donner un peu de la valeur, parce qu'à tout le temps il fallait attendre que ça revienne de l'Occident, qu'on leur dise faites là, et là ils ont pris l'initiative. Bon, voilà, c'est très bien. Le problème, Stéphanie, c'est de savoir et maintenant à qui ça va tout profiter effectivement. Parce que eux ils décident, mais les populations n'ont pas été consultées. Parce que quand ça va s'échanger et que les populations n'arrivent pas à se retrouver, imaginons par exemple vous arrivez à une frontière d'un de ces pays signataires, on parle de libre échange et vous êtes là, on vous recale, vous ne passez pas. Parce que quoi? Voilà, les accords ont été là signés, mais dans le fond, il n'y a pas vraiment une bonne application. Donc moi, je pense qu'il faudrait qu'ils mettent une vraie volonté politique, et il ne faudrait pas qu'il y ait ceux qui vont profiter de la faiblesse des autres, parce qu'ils vont s'en profiter de la faiblesse de celui qui est au pouvoir, peut-être. Mmh. En fait, celui qui est au pouvoir, il va en profiter de quelque chose, mais la population n'en profitera pas. Voilà le problème, Stéphanie. Parce que le Nigeria aujourd'hui, c'est une grande puissance économique en Afrique, c'est la première. Mamadou Bouhari était un peu hésitant et il a dit oui, j'adhère. Bon, lui, il n'a pas de problème. Mais il faudrait que les choses soient bien mises à table pour que tout le monde puisse se retrouver. C'est une bonne initiative, Stéphane.
Ça va être le principe, William, je vous remercie, hein, William qui dit voilà, il faut que les choses soient mises à table. Ça va être le principe des négociations. Hein. Alors, il y a déjà plusieurs instruments qui ont été ratifiés, entérinés, notamment les règles d'origine, la liste des concessions tarifaires dans le commerce des biens, les mécanismes en ligne de surveillance et d'élimination des barrières non tarifaires continentales, une plateforme panafricaine de paiement et de règlement numérique, ainsi qu'un observatoire africain du commerce. Alors, que faut-il attendre de ces négociations? Merci beaucoup, William, de votre participation. On va retrouver Jara, peut-être. Jara, bonjour.
Allô, bonjour.
Bonjour, Jara. Ouais, du côté du Royaume-Uni, vous? C'est Momo,
oui,
plutôt.
Ouais, c'est Momo Jara Minajara. Voilà, c'est mon surnom.
Momo Bienvenue dans le JDA.
Merci.
Okay. Vous dites, hein, c'est une bonne nouvelle, faut voir ce que ça va apporter de bien. Est-ce que, oui, justement, ce que disait Tierno tout à l'heure, voilà, beaucoup d'économies africaines sont tournées vers l'extérieur, notamment vers l'Occident. Et est-ce que vous pensez que cette zone de libre-échange va permettre d'accroître les échanges entre pays africains?
Ok. Comme je disais tout à l'heure, je pense que, a priori, sur papier, c'est un projet fantastique. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde même l'idée, quand on regarde ce qu'ils veulent faire, ce sont les États-Unis d'Afrique qu'ils veulent faire là. Sur papier, c'est alléchant. Mais moi, ma crainte, elle est ceci. Moi, je viens de la zone CEDEAO. Et il y a seulement une semaine, par exemple, j'ai voulu visiter deux pays de la CEDEAO qui sont la Côte d'Ivoire et la Guinée.
Oui.
OK? Le billet, j'achète un billet de Londres pour aller à Abidjan, qui me coûte 370 livres, et d'Abidjan à Conakry, ça me coûte 310 livres. J'espère que tu vois à peu près la nuance que je veux faire.
Oui, c'est-à-dire que vous dites finalement ça coûte aussi cher de faire un Abidjan-Conakry que de faire un Londres alors que la distance est plus longue.
Exactement. Donc, en me basant sur ça et en me basant déjà sur même le fait même de pouvoir me rendre dans ces deux pays avec le passeport européen que j'ai, il me faut deux visas. Donc, en mettant ces deux éléments ensemble, je me demande bien, est-ce que ce truc-là, c'est pas juste pour nous endormir?
Momo, vous avez quand même besoin d'un visa pour aller à Conakry?
Bon, par exemple, moi, dans mon cas précis, mon passeport africain est périmé, donc il me faut pour rentrer dans mon pays, voilà. Pour me renouveler un passeport. Mais
a priori, le passeport CEDEAO, vous pouvez circuler d'un pays à l'autre.
Exactement.
Sans difficulté, mais en temps normal, pas toujours.
Voilà, mais en temps normal, lorsque, par exemple, un Africain prend un Schengen, il peut se balader dans tous les pays de la Schengen. Mais nous, par exemple, si on prend un visa CEDEAO, on peut aller que dans un seul pays. Donc, c'est-à-dire, en mettant ces deux cas ensemble, je me demande bien, est-ce que cette ouverture-là va profiter au bas peuple. Parce qu'en réalité, lorsqu'on va amener le truc au grand pays, par exemple, les transactions vont bien se passer. Mais moi, ma crainte et ma préoccupation, c'est le bas peuple. Est-ce que nous, les petits commerçants, nous, les petits entrepreneurs qui voulons faire nos affaires, qui voulons profiter de cette opportunité, est-ce qu'il y aura des législations en place qui vont être suivies et appliquées pour nous aider à pouvoir faire ces zones de déplacement? Sinon, le projet sur papier, il est fantastique. C'est-à-dire, l'avenir de l'Afrique est basé sur le commerce. Et le commerce entre les pays, c'est la source de richesse, la source d'émancipation, etc. Mais est-ce que ça va servir au bas peuple? C'est ma plus grande préoccupation. Les multinationales, les grands pays vont pouvoir bien profiter parce qu'ils pourront se faire entendre et ils pourront faire respecter les engagements que nous avons pris. Mais et nous, le bas peuple, est-ce qu'on va respecter nos engagements? Lorsqu'on sait que pour quitter Abidjan pour aller à Accra, par exemple, à la frontière, même étant donné qu'on est lancé derrière, il faut débourser un peu d'argent pour qu'on nous laisse passer. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ma crainte.
On a bien compris, hein, Momo, finalement, voilà, c'est une belle idée, c'est important, c'est bien, le commerce, ça dynamise, mais et dans les faits, vous craignez que ça soit pas appliqué avec beaucoup d'égalité et de justice. Merci beaucoup, Momo. Bonne journée à vous. Je demande à Abdel de patienter un peu et ça aussi. On va écouter Marcus. Marcus, bonjour.
Allô.
Bonjour.
Oui, bonjour Madame Antman. Bonjour les auditeurs. Donc effectivement, j'ai écouté les auditeurs, mais je vais dire quelque chose. L'Afrique doit s'unir. Et ce programme qui est...
C'est ce qu'avait dit Kwame Nkrumah, l'Afrique doit s'unir ou périr.
En plus bien. Mais d'autant plus, comme on dit, pour mener un train à son but, il faut des locomotives. Certes, les pays qui sont puissamment économiques et vont en profiter. Mais je pense que ça va équilibrer les choses de façon à ce que tous ceux qui font partie de ce train économique puissent en bénéficier. Je vais prendre un discours de l'ancien président de l'Éthiopie qui était Alain Séassié, qui dans son discours en 1963 avait fait un discours sur les guerres économiques de l'Afrique, d'où Bob Marley a repris le texte de la chanson « Wow ». Je pense qu'il est temps, et que tous les gens qui ont peur de cette unification, de ce fédéralisme qui va unir le système économique, le système monétaire, qui va même unir les sources de matières premières, je pense qu'on n'a pas à douter. C'est, comme on dit, il faudrait trouver de grands hommes capables de mener les réflexions de façon à ce que l'Afrique prend le train de ce monde dit moderne, parce que l'avenir du continent, ce sont la jeunesse et que tout ce qui implique la jeunesse doit être pris en compte, tant socialement, économiquement, spirituellement, éducativement. Je pense que c'est tout un travail à faire. Et je pense que il y a des petits auditeurs qui ont peur. Je pense que c'est l'égoïsme même de nos populations. Mais je pense qu'il faudrait avoir de grands penseurs. Cet entendement nous a démontrer les raisons.
Marcus, je suis bien d'accord, c'est intéressant tout ça, effectivement, ce discours hein, qui est intéressant, mais est-ce que aussi on n'a pas fustigé il y a quelques années, on fustigeait quand même le libéralisme, le libre-échange, celui qui tordait mais, les économies madame, avec les ajustements structurels.
Madame, le libéralisme a montré ses limites. Donc, il faudrait un nouveau paradigme de pensée pour le continent.
Alors, du coup, Marcus, ma question va être celle-là. Est-ce que là, avec cette zone de libre-échange, on est dans un nouveau paradigme?
Mais je pense qu'il faudrait mettre en évidence le panafricanisme, le vrai panafricanisme des grands penseurs, Marcus Garvey et tous les autres.
Ok. Merci Marcus, justement. Tiens, Marcus qui porte bien son nom. Je pense que c'est fait exprès. Bonne journée Marcus. Marcus, il pourrait prendre une bonne chose quoi, en termes de... En tant que panafricain, Marcus voit ça comme une bonne chose. Alors, Abdel, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie.
Bonjour Abdel. Vous aussi, là, sur votre continent aussi, on renégocie les accords de libre-échange, je pense.
L'ALENA. On renégocie. Comme quoi, chaque président vient, il vient faire ce qu'il veut. Vous avez vu Trump venir avec tout sa fougue, là, il change tout, il joue à sa guise à lui. Et je vois la même chose se faire en Afrique aussi. C'est vrai que la zone de libre-échange, c'est un bon projet, c'est des bonnes idées, mais dans la pratique, c'est quoi? On sait qu'avant, il y avait un genre de ce genre-là qu'on appelait tech, qui fait que les tarifs douaniers doivent être le même partout dans tous ces pays-là. Si je prends entre le Bénin et le Togo seul, c'est comme si ce tech-là n'est jamais bien appliqué. Parce que vous voyez les gens qui disent que la douane est chère au Bénin, ils vont aller au Togo pour aller prendre leur conteneur parce que c'est moins cher là-bas. Avec ce déséquilibre-là, comment on peut assurer un libre-échange? Il y aura toujours quelqu'un qui serait avantagé, d'autres qui n'est pas avantagé. Et ce grand projet de tarif de libre-échange avec tous ces pays-là aujourd'hui, c'est les grands producteurs qui vont gagner parce que je ne sais pas qu'est-ce que les autres petits pays produisent. On a vu le milliardaire nigérian qui transporte des camions de ciment à travers les pays-là du Nigeria pour aller passer par le Bénin, le Togo, le Ghana.
Finalement, ce que vous dites, Abdel, c'est qu'il y a un risque pour les petits pays qui ne produisent pas beaucoup et qui ne transforment pas beaucoup de voir débarquer sur leur marché des produits moins chers et plus concurrentiels.
Exactement. Et qu'ils n'ont pas de douane à faire. Et donc, les pays-là, ils vont disparaître. Parce qu'ils n'ont rien à donner en échange. Parce qu'il faut d'abord faire qu'est-ce que chacun produit pour voir c'est quoi l'échange, il faut les faire comment. Les pays qui sont enclavés, qui n'ont pas de port, c'est un autre problème parce qu'ils ont besoin d'avoir des produits qu'on va acheminer chez eux là-bas. Mais ceux qui sont les autres, ils ont les ports, mais chacun exporte comme ils veulent. Il n'y a pas de contrôle. On a vraiment d'autres sérieux problèmes de sécurité aussi dans la circulation. On a vu que c'est seulement le Bénin qui tient les transports aujourd'hui là, en limitant les barrières douanières, les barrières policières, les contrôles sur les chemins, et les conducteurs sont satisfaits. Mais dans les autres pays, ce n'est pas le cas. Même à la frontière seulement, Togo-Bénin seulement, là, il faut se faire rançonner. Du côté des pays noirs, maintenant, c'est allégé. Mais du côté togolais, c'est toujours encore.
Si on n'arrive pas à faire librement circuler les personnes hein, entre Bénin et Togo dans la zone CDO, ça va être difficile peut-être au niveau continental. Merci Abdel de votre appel. Bonne journée à vous. Il nous reste quelques minutes. On doit écouter Issa. Issa, bonjour.
Ah, bonjour Stéphanie.
Bonjour Issa.
Oui.
Vous avez une question, vous avez demandé si c'est vraiment l'Afrique qui gère cette libre-échange. Bon, en tout cas, c'est des Africains qui ont signé, hein. On les a vus sur la photo à Niamey.
Bon, très bien.
J'ai répondu à votre question, Issa.
Oui, j'ai dit le fondateur de Haïlé Selassie en passant par Patrice Lumumba, Fouba et les autres, ça, vous voulez personne. Ils vont dire, enfin, nous sommes sur le bon chemin. J'espère que, comme je l'ai dit, moi qui respire l'Afrique, qui parle l'Afrique, qui se soucie de l'Afrique, je ne suis pas le seul panafricain digne de son nom, hein, mais quelle joie. Bon, ma soeur Stéphanie, moi, ma question, la deuxième, elle est toute simple. Avec ces détails d'un pays à un autre, article ceci ou cela, le pays grand producteur, un pays petit producteur, pourquoi nous n'allons pas vers tout simplement les États-Unis d'Afrique? Là, si vous avez produit 3 kilos, vous allez le vendre, c'est la même monnaie. Et si je produis 20 kilos, je vais le vendre c'est ma production. Pourquoi ces articles, ces techniques, ces ajustements, c'est compliqué.
Vous dites, finalement, autant coupler l'intégration économique avec une véritable intégration politique. Si tu peux parler des États-Unis d'Afrique, ça voudrait dire un gouvernement, finalement, pour tout le continent, presque.
Oui, mais les États-Unis d'Afrique, vous savez, elle est bien avant les États-Unis, les USA. Et, hein, c'est pas la peine qu'on se pose beaucoup trop de questions à ce propos. Notre État, bien avant les États-Unis d'Afrique, l'Afrique existait, ne serait-ce qu'en quatre grands blocs, le Maleng, la terre de Bamishari, la bure Mombasa et la bure d'Éthiopie, c'est tout, voilà. C'était pas 54 États. Mais pourquoi pas aujourd'hui, d'un coup, ne pas s'assembler, puisque vous avez
c'est un peu réducteur. La description que vous avez faite de l'Afrique, qui était un peu réductrice, non, Issa. Mais on arrive à la fin de l'émission. Mais on a bien compris. Merci, Issa, de votre appel.
Merci beaucoup. Merci
bonne
beaucoup.
Journée, Issa. Pardon. Oui, Issa.
Les experts dans ce domaine-là pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que c'est. Parce que c'est trop compliqué pour nous.
Il y a une super interview que vous pouvez retrouver sur le site d'africaradio.com. Vous tapez Zleg dans la barre de recherche. Vous retrouvez, c'est l'interview d'Abdoul hein, Salam Bello, chercheur consultant à l'Atlantic Council, qui avait répondu à nos questions. Voilà. Merci de votre tous de votre participation. N'hésitez pas à continuer le débat sur le répondeur d'Africa Radio. Laissez-nous des messages, nous les diffuserons demain au 33 1 55 07 58 05. Si vous n'avez pas pu intervenir, restez en ligne. On peut peut-être vous inscrire aussi pour la libre antenne de vendredi. Hein. Vous connaissez le principe de la libre antenne. Chacun choisit le sujet sur lequel il peut s'exprimer ou il veut s'exprimer. Mais ça, ce sera vendredi. En attendant de vous retrouver demain, prenez grand soin de vous à l'écoute d'Africa Radio, la seule, l'unique, la vraie radio africaine. À demain.